Le vieux lui tend l'échine. Il lui offre un aveu, sa fissure, sa brisure, sa destruction passée et à venir. Elle comprend cette agitation qui fait tellement mal. Sans mot, elle s'approche. Elle pose ses mains bien à plat sur les épaules voûtées qui tressaillent, sursautent. Elles avouent tout. Elles disent, sans phrase. Il n'y a plus de pudeur, que de la résignation. Le contact frémissant, la chaleur des paumes minuscules sur ce grand dos d'homme abattu, arrête le temps. Les tressautements s'apaisent, le silence se fait. Il reste longtemps comme ça. Elle, debout, droite, solide, indispensable, derrière le corps brisé de celui qu'elle n'appellera plus jamais le vieux, même pas dans sa tête. Mais monsieur, parce qu'elle ne voit plus comment s'adresser à lui autrement. L'après-midi l'a épuisée. Elle ne sait pas exactement pourquoi, au fond, elle n'a pas fait grand-chose. Elle s'est contentée de suivre le mouvement, le cou tendu vers la meute joyeuse des chiens excités. Les aboiements ont guidé les chasseurs vers l'animal en fuite. Les dames qui entouraient Alexandrine ont pris des paris, un sanglier, une biche, un chevreuil. Quand elle a avoué participer à sa première partie de chasse, les regards remplis de compassion feinte en ont dit long. Elle a laissé faire. Les yeux dans les fourrés, elle a juste savouré le moment présent. Depuis quand n'était-elle pas allée en forêt? Elle aurait volontiers invité ses comparses à se taire, elle n'a pas osé. Elle gardera le souvenir de leurs cris stupides quand leurs maris ont mis à mort le cerf. Les hommes l'ont visé à plusieurs. Personne n'a su qui avait asséné la balle mortelle, mais les chasseurs se sont longuement congratulés autour de la dépouille. Les bois majestueux feront un trophée magnifique. Il a fallu prendre une photographie, les hommes entourant la bête foudroyée. Irène a tiré le cliché. Depuis la carriole dont elle n'est pas descendue, Alexandrine trouve étrange de faire une telle fête autour d'un cadavre. À quoi s'attendait-elle? Une partie de chasse, c'est une petite guerre. Elle se souvient de ces photos de soldats qui paraissaient dans les journaux, victorieux et souriant autour d'un canon dérobé à l'ennemi, heureux d'avoir conquis la tranchée d'en face, sans rien raconter de l'âpre combat qui avait précédé la victoire. Elle est bien loin de toute cette joie. Une pensée surgit, elle la traverse parfois et lui fait honte. S'il était resté un homme comme les autres, Blaise aurait-il pu être de ceux-là? Se serait-il livré à cette parodie guerrière? Elle veut à tout prix croire que Blaise, avant sa blessure, était un être différent. Que jamais elle n'aurait lu dans ses yeux la joie sauvage qu'elle découvre sur le visage de ces citadins si polissés. Le seul qui lui semble avoir une place légitime sur ce champ de bataille et dont la physionomie n'exprime pas la même fierté sauvage, c'est cet homme au chapeau qu'Irène a insisté pour placer au cœur de la photo. Le bras passé au cou de l'animal étendu au sol, il fixe l'objectif sans sourire. Qui est-ce? Sa voisine lui souffle qu'il s'agit de Mathieu, le garde-chasse. Sans lui, pas de battu, pas de chien, pas de chasse. Alexandrine soupire. Voilà un bel hypocrite, attristé par la mort d'un animal dont il a lui-même organisé l'agonie.
Les voix sont revenues, mais pas pour moi. Elles ne me consolent pas, elles ne chantent plus. Pourtant ce sont elles, j'en suis sûre, même si je ne les comprends pas. Je les ai bien questionnées, mais elles non plus, elles ne m'entendent pas. Je marche de long en large, sans jamais aller nulle part.
Petit à petit, un centimètre après l'autre, elle a relevé monsieur. Elle l'a dégagé du piano, dans lequel il semblait vouloir se fondre, s'incarcérer, comme s'il avait cherché à disparaître. Elle a eu l'impression de manipuler un bout de bois, un cadavre. Elle a déjà touché un cadavre, celui de sa mère, sa pauvre mère.